journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
Et d'abord, l'explosion des cas de Covid en Guadeloupe, un taux d'incidence encore jamais vu. La Guadeloupe reconfinée pour 3 semaines à partir de demain. Les autres titres, Laurence.
En Afghanistan, à peine les Américains partis, des dizaines de civils assassinés, les talibans accusés de possibles crimes de guerre. L'épandage des vignes par hélicoptère, une spécificité de la Suisse romande qui résiste aux critiques des milieux écologistes. Des centaines d'étourneaux chaque soir dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg, nuisances sonores et sanitaires, riverains excédés, des cris de rapaces comme mesure d'effarouchement.
Les invités de la matinale, dans 3 quarts d'heure, Nicolas Bedos avec sa casquette de réalisateur, son film OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire au ciné demain, avec Jean Dujardin, toujours dans le rôle titre aussi macho, réac et raciste, prendre les chaussons d'Azanavicius, tourner OSS après MeToo, pas trop difficile, on lui posera la question. Et puis à 8h20, dans le grand entretien, Valérie Rabault, la députée PS du Tarn-et-Garonne, présidente du groupe socialiste et apparentée à l'Assemblée, la vaccination obligatoire, les antipasses, la présidentielle, on attend vos questions, chers auditeurs. 01 45 24 7000.
France Inter.
La Guadeloupe est au seuil d'une situation catastrophique avec une vague de Covid-19 extrêmement violente. Les mots sont forts, ils sont signés de Valérie Denux, la directrice de l'ARS, qui a demandé hier soir la mobilisation de tout le personnel médical de l'île.
Un taux d'incidence qui est à 828 pour 100 000 habitants, on n'a jamais atteint ce taux d'incidence-là en Guadeloupe. Une personne contaminée peut contaminer 2 autres personnes. À ce rythme, évidemment, eh bien, nous risquons d'enregistrer plus de 6 000 cas la semaine prochaine. Aucun des patients qui se trouvent aujourd'hui en réanimation Covid, c'est-à-dire les 22, n'étaient vaccinés. Le nombre d'urgences a doublé par jour. Donc on fait appel et je fais appel à tout professionnel de santé qui aurait des compétences soit en réanimation, soit en médecine générale, qui voudrait bien venir nous aider. Et je terminerai en décrivant ce tableau qui est très difficile sur le fait que les îles du Nord, malheureusement, augmentent aussi. Et sachant que la Martinique est en très, très grande difficulté, elle n'est pas en mesure de nous aider.
Valérie Denux, la directrice de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe. Parallèlement, le préfet annonce de nouvelles restrictions à compter de demain. Couvre-feu de 20h jusqu'à 5h du matin. Déplacement interdit au-delà de 10 km autour de son domicile, sauf motif impérieux. Fermeture des bars, des gymnases, des stades et des piscines. Interdiction de pique-niquer sur les plages ou d'emporter des sonos sur les bateaux pour y organiser des fêtes. Sur les plages, seule une présence dynamique est autorisée. Autrement dit, on peut se baigner, pratiquer un sport ou marcher. Et pour la préfecture, ce tour de vis était indispensable, Maxime Tellier.
Le préfet de Guadeloupe parle d'un mur pour décrire la courbe du nombre de tests positifs au Covid dans l'île. 3100 cas par semaine hier, soit 10 fois plus qu'il y a 3 semaines. Une explosion des contaminations jamais vue en Guadeloupe. Cette 4e vague est la pire que l'île ait connue depuis le début de l'épidémie, il y a 1 an et demi. En cause, d'après le préfet, un relâchement des habitants sur les gestes barrières, un déni aussi de cette 4e vague et surtout un très faible taux de vaccination. Seuls 18% des habitants sont complètement vaccinés, soit près de 3 fois moins qu'en métropole. Il y a une réticence au vaccin qu'il faudra lever par de la pédagogie, explique le préfet. En attendant, tous les habitants, même ceux qui sont vaccinés, doivent se conformer à ce nouveau confinement.
Maxime Tellier, aux États-Unis, les hospitalisations atteignent des niveaux comparables à l'été dernier, des cas concentrés dans des communautés où les taux de vaccination sont les plus faibles. Mais avec 1 mois de retard, Joe Biden, le président, a atteint son objectif. 70% d'adultes ont reçu au moins une dose de vaccin. Et puis en pleine vacances, retour ce soir du couvre-feu, ça c'est au Maroc, de 21h à 5h du matin. Les déplacements entre plusieurs villes, dont Marrakech, sont limités aux détenteurs d'un certificat de vaccination contre le Covid. Quant à la ville chinoise de Wuhan, là où la pandémie a démarré, eh bien, elle a décidé de dépister ses 11 millions d'habitants après la découverte de quelques cas du variant Delta. Et ce mariage en vue chez Sanofi après son échec dans la course au vaccin, le groupe français souhaite racheter la firme de biotechnologie américaine Translate Bio, un spécialiste de la technologie ARN messager utilisée notamment pour certains vaccins. La technologie est très prometteuse, notamment pour soigner les cancers. Les termes financiers de cette possible transaction ne sont pas encore connus.
Quand les talibans sèment de nouveau la terreur en Afghanistan, à peine les Américains partis.
Ils sont accusés par les ambassades américaines et britanniques d'avoir massacré une 40aine de civils par vengeance. Les fondamentalistes religieux resserrent leur étau sur 3 grandes villes du pays, Herat, Kandahar et Lashkar Gah. Les combats font rage face aux forces gouvernementales. Les talibans ont gagné de larges pans du territoire et des milliers d'Afghans ont dû quitter leur maison pour se réfugier ailleurs. Correspondance depuis Kaboul de Sonia Ghazali.
Les talibans ont identifié, traqué puis tué des personnes qui travaillaient pour le gouvernement bien qu'elles n'avaient aucun rôle combattant, révèle un rapport de la commission indépendante afghane des droits de l'homme. L'organisation s'appuie sur des enquêtes menées à Spinboldak, un district situé dans le sud du pays, près de la frontière avec le Pakistan, et dont les talibans se sont emparés le mois dernier. La commission dit avoir identifié 40 personnes tuées dans ce district par les talibans. Il y a plus d'une semaine, le ministre de l'Intérieur afghan affirmait qu'une centaine de civils avaient été assassinés par les talibans à Spinboldak. Des médias locaux, qui citent les services de sécurité afghans, rapportaient il y a plusieurs jours que de nombreux corps sans vie gisaient dans les rues du district. Les talibans ont rejeté ces accusations. Plusieurs responsables locaux rapportent cependant des violations des droits de l'homme. Hier, dans un discours au Parlement, le président Ashraf Ghani a imputé la dégradation de la situation sécuritaire à la décision des États-Unis de se retirer du pays. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI pour France Inter.
7h06, la suite du journal de Laurence Thomas avec ce secteur qui ne connaît pas la crise, mais la pénurie, c'est la filière bois.
Allongement des délais d'approvisionnement, forte hausse des prix, explication. Eh bien, la Chine a décidé de protéger ses forêts surexploitées pendant 99 ans et les Américains sont en conflit sur le sujet avec le Canada. Conséquence, ces deux pays se fournissent désormais en Europe et par exemple en France. Eh bien, il faut parfois attendre jusqu'à 6 mois pour se faire livrer du bois de construction. Marianne Naquet est allée dans l'une des dernières scieries d'Île-de-France.
Au cœur de l'été dans sa scierie, chez Réserbois à Crécy-la-Chapelle, Armand Delobrière fait le point sur son stock.
C'est pas forcément très rempli, oui, il y a un peu de rupture sur certains produits. Je sais qu'il y a des problèmes d'approvisionnement de colle, il y a des problèmes d'approvisionnement de mélamine aussi, donc tout ça c'est pas forcément facile.
Problème d'approvisionnement, problème de délai aussi.
En fin d'année 2020, on avait 15 jours, 3 semaines pour avoir du résineux ou des panneaux ou d'autres types de produits. Et puis maintenant, on est rendu pratiquement à 6 mois de délai.
En 20 ans, il n'a jamais vu ça, et puis il y a les prix qui s'envolent.
Ça a au moins doublé, le résineux, ça a bien pris autour de 40-50%. Voilà, c'est déjà pas mal.
Tout ça à cause de la forte demande aux États-Unis et en Chine.
C'est la loi du marché et le marché français n'étant pas capable de payer les prix que payent les États-Unis ou la Chine, est un petit peu à la traîne.
Conséquence, les livraisons de chantiers sont retardées et la facture des consommateurs augmente de 10 à 30%.
Il faudrait que la hausse s'arrête, qu'on puisse prévoir. Le problème que j'ai avec mes clients, c'est qu'ils sont en train de me demander des prix pour leur chantier dans 6 mois ou dans un an. Et moi, je suis incapable de leur dire, je peux vous maintenir un prix ferme et définitif pendant 6 mois. Ça, c'est compliqué.
Pour aider la filière bois qui concerne 400 000 salariés, le gouvernement a promis de débloquer 300 millions d'euros.
Marianne Naquet, je vous parlais hier du mildiou. Eh bien, la Suisse ne lésine pas pour venir à bout de ce champignon et autres maladies de la vigne. En été, des hélicoptères pulvérisent les vignobles de fongicides pour prévenir l'apparition de maladies. Malgré les critiques récurrentes des milieux écologistes, cette pratique interdite dans l'Union européenne reste très prisée en Suisse romande, et en particulier cette année avec la mauvaise météo. C'est le reportage de Jérémy Lange dans le canton de Vaud à Aulon, une commune réputée pour ses grands vins.
Ça, c'est une vigne qui a été traitée. Donc là, on voit qu'il y a eu une petite attaque de mildiou qui a stabilisé. Un peu de mildiou sur les feuilles, mais autrement, là, on va avoir une belle petite vendange, ça va être très sympathique.
Comme tous les vignobles suisses, celui de Jean-Alexis Duc a souffert des fortes pluies ces dernières semaines. Alors, comme d'autres viticulteurs, il a choisi de traiter par hélicoptère, seule manière d'intervenir rapidement sur toutes les parcelles avant la prochaine averse et sans se casser le dos, comme l'explique Pierre-Yves Felet, le secrétaire de l'association romande pour le traitement des terres agricoles par voie aérienne.
On les a plantés avec une telle densité de cèpes à l'hectare, jusqu'à plus qu'un cèpe par mètre carré, ce qui fait qu'approcher dans ces vignobles avec même une mécanisation légère, c'est tout simplement impossible, aussi compte tenu des pentes que l'on a dans notre vignoble. Et l'hélicoptère a ce gros avantage, c'est de décharger les viticulteurs d'un travail physique, pour ne pas dire dangereux.
Dans 60% des cas, les traitements apportés sont utilisables en agriculture biologique. Pour la grande fierté du pilote de l'hélicoptère, Serge Delétro.
On a lancé ce bio depuis plus de 10 ans maintenant. On fait des algues, on spraye des produits anticancéreux dans les vignes. On met du purin d'ortie, du purin de prêle. Si on était resté en chimie, moi j'aurais arrêté de faire les vignes.
Mais du côté des associations environnementales, on s'inquiète de la dispersion des produits phytosanitaires. Tous ne sont pas bio, c'est le cas du folpet, un pesticide utilisé contre le mildiou et soupçonné d'être cancérogène. À Aulon, dans le canton du Valais suisse, Jérémy Lange, France Inter.
Et là, on va parler d'une solution très bio, des cris de rapaces dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg. Les faucons ne sont pas pour autant de retour dans cette partie de l'Alsace, mais c'est le nouveau moyen testé par la mairie pour faire fuir les étourneaux. Car à Strasbourg, comme dans d'autres villes françaises, ces petits oiseaux noirs arrivent par milliers et provoquent des nuisances sonores et sanitaires. Faustine Calmel.
Depuis le comptoir de l'épicerie qu'il tient au pied d'un immeuble de la cité Loucheur, Shakib a vu revenir les étourneaux en nombre.
C'est genre comme des bancs de poissons quand ils arrivent et ils ont choisi un arbre. Il est rempli, rempli, rempli. Donc c'est vrai que quand ils chantent tous, ça fait du bruit, quoi.
Un concert strident tous les soirs et puis il y a les fientes, un tapis d'excréments sur les voitures qu'il faut nettoyer. Tous les deux jours, poursuit l'épicier. Alors certaines municipalités ont bien tenté d'élaguer les arbres, d'y poser des filets ou de lancer des fusées crépitantes. À Strasbourg, la ville diffuse désormais des cris de faucons.
La problématique qu'on a à Strasbourg est assez nouvelle puisque c'est une problématique qui intervient pendant la période de reproduction qui s'étend du printemps jusqu'à la fin de l'été.
Émilie Etienne de la Ligue de protection des oiseaux en Alsace a travaillé avec la ville pour comprendre les déplacements des étourneaux.
Ils se regroupent en dortoir, mais c'est des étapes successives, toujours en suivant la même ligne de vol. Donc l'idée, c'est de déterminer des sites dortoirs sur ces lignes de vol qui seraient beaucoup moins gênantes. On va voir où ils vont aller. Et en fonction, on analysera si effectivement c'est convenable ou alors s'il faut encore qu'on continue et qu'on les déplace ailleurs.
Et si les cris enregistrés ne sont pas suffisants, alors de vrais rapaces seront mis à contribution à la fin de l'été.
Faustine Calmel, profitez du calme estival pour cause de pandémie pour visiter tranquillement une expo exceptionnelle consacrée à l'un des plus grands photographes du siècle, Henri Cartier-Bresson, Le Grand Jeu. 5 regards différents sur les 385 images que Cartier-Bresson avait lui-même sélectionnées dans les années 70 comme une sorte de testament visuel. Et parmi ces regards, la photographe Annie Leibovitz, le cinéaste Wim Wenders ou le collectionneur François Pinault. Ils ont choisi respectivement entre 30 et 50 images dans cette master collection. Isabelle Pasquier.
Pour moi, la grande jouissance, c'est d'être devant un sujet hop, qui s'impose à moi, hop, n'est-ce pas ? Et puis d'avoir appuyé au bon moment. Et ça, c'est une fraction de seconde et c'est le seul moment de création.
Incroyable humilité d'Henri Cartier-Bresson qui, en un fragment de seconde, a su capter la vie sur un visage ou dans la rue avec un cadrage exceptionnel. La photographe Annie Leibovitz a choisi certains sujets graves de Cartier-Bresson à la fin de la guerre, la violence d'une femme devant celle qu'il avait dénoncée. François Pinault lui a sélectionné des photos plus quotidiennes. Ce vieux vigneron, les yeux brillants d'humanité devant sa bouteille. Cartier-Bresson cherchait le vrai.
On n'a pas le droit de trafiquer. Si la photo est bonne, je ne peux pas la retoucher. La chose est vue à un moment donné, d'un endroit donné.
Fascinant, les portraits de Giacometti sous la pluie, le regard d'aigle de Beckett. Dans une pénombre cinématographique, Wim Wenders se confie son émotion devant la douceur du regard de Cartier-Bresson. Fondateur de l'agence Magnum, le photographe a été un témoin de son époque.
Pour moi, la photographie est un moyen de tenir mon journal. Et dans le fond, s'il n'y avait pas une exigence de témoigner sur notre monde, sur notre époque, bien, je m'amuserais tout autant si je n'avais pas de film dans l'appareil.
Le regard humaniste de Cartier-Bresson, flâneur amoureux des hasards de la vie.
Henri Cartier-Bresson à la BNF jusqu'au 22 août.
C'est bien noté. Merci Laurence Thomas pour le journal.
France Inter. Hélène Roussel. Le 6-9.
80 secondes ce matin pour partir loin, très loin.
C'est à nous. À nous. Il nous faut le précieux. Nous devons le reprendre. Patience. Patience, mon trésor.
Gollum, mon précieux, oui, le Seigneur des Anneaux revient. L'univers fantastique de Tolkien fascine toujours autant, peut-être encore plus même par les temps qui courent. Besoin de rêver d'ailleurs. Bref, après la trilogie de Peter Jackson, donc, une série. En combien de saisons, ça, mystère. Tout ce qu'on sait depuis hier, c'est que le tournage de la première saison vient de s'achever en Nouvelle-Zélande, qu'on sera toujours dans la terre du milieu, mais que la série va démarrer des milliers d'années avant les événements du livre, une sorte de préquel, donc. Tweet laconique d'Amazon Studios cette nuit. Le 2 septembre 2022, un nouveau voyage commence. Une image, une seule, un personnage de dos au loin dans un paysage de châteaux et de prairies. Au moins, Amazon sait comment faire monter la sauce. 13 mois avant la diffusion. Faut dire que pour décrocher les droits télé de cette œuvre culte, le géant a dû débourser 250 millions de dollars. Clairement, on est dans une autre sorte de guéguerre, là, celle d'Amazon contre Netflix et Disney. Alors, septembre 2022, oui, c'est encore loin. Il y a toujours les films de Peter Jackson à revoir sans modération. Bon, et puis Le Seigneur des Anneaux ou Bilbo le Hobbit, ça restera à jamais Tolkien. Retour au bon vieux bouquin, valeur sûre dans ce bas monde. 7h15, le Zoom. Le meilleur de nos grands reportages. Cette semaine, nous retournons voir ceux qui ont été au cœur de l'actualité. Et ce matin, les profs. Comment enseigner la liberté d'expression après l'assassinat de leur collègue Samuel Paty en octobre 2020? Comment mettre l'autocensure à distance après Samuel Paty? C'est un reportage de Sandy Dauphin.
Elle aurait pu céder à la peur et ne plus montrer de caricature.
Je suis professeure d'histoire-géographie en collège.
Peur de ne pas être protégée par l'institution, comme beaucoup de professeurs nous l'ont dit.
On va rentrer dans ma salle.
Mais cette enseignante a préféré changer de méthode pour ses cours sur la laïcité et la liberté de conscience avec sa classe de 3e.
Alors moi, je donne des documents officiels pour ne pas avoir de problème éventuel avec les parents d'élèves, pour éviter en fait des récriminations, des remarques. Je préfère prendre des cahiers d'activité. Comme ça, au moins, ça ne vient pas de moi, c'est l'institution.
Son collège, dans l'est de Paris, accueille de nombreux élèves de confession musulmane et juive. Elle a déjà eu des difficultés avec des familles et ne montre pas de caricatures d'entrée de jeu.
Alors moi, ces élèves, ils me demandent quelles sont les caricatures qui avaient choqué dans Charlie Hebdo, je leur montre. Et je leur explique que Charlie Hebdo, ils sont attaqués aussi bien à l'islam qu'au catholicisme, qu'au judaïsme, et qu'ils ont fait le même type de caricature pour chacune des religions. Comme ça, ils se disent pas c'est l'islamophobie ou voilà.
Le sujet est plus sensible, comme le confirme la principale du collège.
On a eu à constater quelque chose qui nous a étonné. Vous l'avez vu, il y a une bouteille de gel dans toutes les salles et les professeurs mettent un peu de gel dès qu'ils rentrent. On a vu des élèves qui essuyaient leurs mains sur leurs pantalons dès qu'on leur versait du gel parce qu'il y a un petit peu d'alcool, parce que c'est écrit gel hydroalcoolique. On se dit donc, ce sont des signaux qui nous disent qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Et effectivement, on est précautionneux, mais il faut absolument en parler. C'est nos missions dans le cadre de l'école.
Faire attention, mais ne pas renoncer, c'est aussi le credo de ce jeune professeur en lycée général, très marqué par l'assassinat de son collègue Samuel Paty. Il a mis au point une séquence pédagogique pour ses élèves à partir de caricatures religieuses.
J'ai été extrêmement heurté par la violence de cet assassinat. J'ai mis un temps avant de réagir et puis la semaine qui a suivi, j'ai commencé à réfléchir à cette séquence pédagogique. Par exemple, j'ai repris la une de Charlie Hebdo où on voit donc Mahomet dire « c'est dur d'être aimé par des cons ». Dans un premier temps, ils ont été choqués et ensuite, j'ai essayé de leur faire comprendre que cette parole-là était à mettre en lien en fait avec le sous-titre de la une qui était « Mahomet débordé par les intégristes ». Et là, du coup, ça a débloqué pas mal de choses chez les élèves.
Les professeurs prennent soin de replacer les caricatures de différentes religions dans leur contexte, même lorsqu'ils ne se sentent pas spécialement en danger dans leur établissement.
Peut-être quand j'ai commencé à projeter les premières caricatures, petite boule au ventre au début, parce que forcément, ça, on pense à ce qui s'est passé, mais les choses se sont très très bien passées. Peut-être que certains enseignants ont peur de ne pas forcément avoir suffisamment de connaissances ou de choses à dire, donc sont peut-être moins à l'aise à l'idée d'évoquer ce sujet. Il y a peut-être une forme d'autocensure. Moi, je l'ai un peu ressenti quand je vous dis que j'ai eu une petite boule au ventre au début. Ça manifeste une certaine crainte, une certaine peur. Après, je pense qu'il faut aussi essayer de la mettre un peu à distance. Mais ça nécessite un vrai travail de réflexion et de lecture aussi pour pouvoir se confronter à des avis contraires et être capable d'apporter aux élèves aussi des contre-arguments.
Certains se sentent démunis. Depuis novembre, le nombre de demandes de formation sur le thème « Valeurs de la République » a explosé selon le réseau Canopé qui propose des ressources et des séminaires en ligne. Isabelle Poulain est formatrice pour la région PACA.
Quand ils assistent à nos formations, il y a toujours un temps d'échange. Ils osent dire « j'ai peur » ou un témoignage aussi « ma femme a peur pour moi maintenant ». Il y a une peur, mais moi ce que j'ai ressenti clairement, c'est une forte volonté de ne pas lâcher. Ils viennent vers nous, vers nos formations, pour ça, pour avoir des outils, pour ne pas lâcher, pour ne pas abandonner.
Une façon aussi de poursuivre le travail de Samuel Paty, et beaucoup d'enseignants insistent sur ce point, de développer surtout l'esprit critique chez leurs élèves.
Le Zoom signé Sonia Princey, comment mettre l'autocensure à distance après Samuel Paty. Ce reportage de Sonia Princey, donc diffusé pour la première fois en mars dernier. Demain dans le meilleur des Zooms, Covid, les Chinois de France submergés par une vague raciste. Ce sera un reportage signé Thibault Lefebvre. Mais tout de suite on file à Tokyo, c'est les JO.
France Inter. Le 6-9 de l'été.
France Inter vous fait vivre en direct les Jeux Olympiques tous les matins à 7h20. Et ce matin, c'est avec vous, Jérôme Val. Bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Vous nous parlez de la finale du 400 mètres haies, une course qui est entrée dans l'histoire.
Ouais, on en a encore les frissons après cette course stratosphérique. On le savait, ce 400 mètres était l'un des moments très attendus de la semaine avec le duel au sommet entre le Norvégien Carsten Warholm et l'Américain Ray Benjamin. Le Norvégien qui avait déjà créé la sensation il y a un mois chez lui à Oslo en battant le record du monde, un vieux record qui datait de 1992 lors des Jeux de Barcelone avec Kevin Young. Et bien l'incroyable